vous invite à vous lever et nous prions courtement. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur une fois de plus pour ce que tu as accompli. Nous te rendons l'honneur. Nous rendons Seigneur l'honneur à toi seul. Parce que nous savons Seigneur que tu ne partages ta gloire avec personne, avec aucun homme, avec aucun ange, avec aucune puissance, avec aucune autorité. C'est toi seul, Seigneur, qui veux être élevé dans tout ce que nous faisons, et aussi, Seigneur, lorsque ta parole est annoncée. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ce matin, il est 11h06, nous allons jouer les prolongations. Rassurez-vous, je ne serai pas aussi long que d'habitude, puisqu'il s'agit d'un culte. Je vois Jeannie qui rigole. Elle se dit, celle-là, tu la racontes à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Hein? Si, c'est vrai. On sera plus court, puisqu'il s'agit d'un culte pendant les vacances, et donc il paraît que normalement c'est un petit peu plus court. J'aimerais ce matin, non pas continuer la série de messages, ou plutôt le message qui avait été initié la fois dernière sur les fondements de la foi, puisque nous sommes dans le temps d'été et qu'il s'agit de faire quelque chose de plus court, eh bien j'ai pensé ce matin prendre un passage de l'Écriture que nous lisons souvent, que nous citons souvent en tant que chrétiens, et que parfois nous comprenons d'une manière qui n'est pas forcément juste. Et le thème de mon message ce matin s'intitule « Toutes choses concourent-elles vraiment à notre bien ? » Est-ce que tout ce que nous vivons dans notre existence concourt réellement à notre bien ? Et ne serait-ce qu'à travers ce titre, vous savez de quel verset de l'Écriture je souhaiterais parler. Le verset de l'Écriture que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 est le verset 28, que j'aimerais lire non pas dans la traduction du Semeur, mais que j'aimerais lire dans la traduction de Second. Il nous est dit ceci dans la version classique, c'est celle que nous connaissons la mieux, celle peut-être, nous avons appris ce verset, vous savez, lorsqu'on se convertit, il y a souvent des versets de base qu'on apprend. Moi je me rappelle, il y avait toute une liste de versets que j'avais appris, du reste je m'en souviens encore 20 ans après, et dans ces versets, il y avait celui-ci. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et d'autres ajoutent selon son dessein bienveillant. J'aimerais ce matin me concentrer sur la première partie de ce verset, à savoir, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Un passage que nous citons souvent dans nos milieux évangéliques lorsque quelqu'un passe par la souffrance, lorsque quelqu'un traverse un moment pénible, lorsque quelqu'un vit une situation incompréhensible, et puis avec toute la bonne volonté du monde, nous allons voir cette personne et puis nous allons lui donner ce verset-là. C'est facile à donner, surtout lorsque soi-même, on ne vit pas des choses difficiles. Lorsque tout se passe bien pour nous, c'est bien, bien entendu, d'apporter des versets qui vont pouvoir encourager les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ce texte de l'Écriture, comme bien d'autres passages dans la Bible, ont embarrassé les chrétiens à travers les siècles qui se sont dit, mais de quoi s'agit-il ici? Que signifie ce passage? Faut-il considérer tout ce qui nous arrive comme étant un bien? Sous-entendu comme étant l'expression de la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que c'est un bien d'apprendre que j'ai un cancer? Est-ce que c'est un bien que mon patron m'ait licencié? Comment une maladie, comment un événement négatif qui nous plombe la vie peut-il concourir à notre bien? La famine qui sévit actuellement en Somalie, qui fait des dizaines de milliers de morts, est-elle un bien? Comment faut-il comprendre ce passage de l'Écriture? Avant de vous en dire plus, un mot sur la traduction de ce passage. Et vous allez voir que la traduction de ce passage devrait nous fournir un premier élément d'explication qui va nous aider dans la compréhension de ce texte. Nous n'avons pas toute la compréhension de ce texte, simplement avec la traduction, mais ça va déjà nous aider. Et ça va ôter quelques scories ou quelques pensée que nous avons par rapport à ce texte. Le problème principal ici, dans ce passage, vient du verbe grec. Du verbe grec que nos traductions rendent par coopérer. Toute chose coopère. Ou alors toute chose concourt. Littéralement, le verbe grec qui est utilisé ici, c'est travailler ensemble. Et si vous aimez un petit peu comparer les différentes traductions, vous verrez par exemple que c'est la leçon, ou c'est plutôt la traduction qu'a retenue la version Darby. Elle dit « toutes choses travaillent ensemble ». Déjà, ça commence un petit peu à s'éclairer. Les choses travaillent ensemble. Ce verbe peut aussi avoir plusieurs sujets différents. Et c'est là la difficulté. C'est là la difficulté de compréhension de ce texte parce qu'il peut avoir plusieurs sujets différents. Et essentiellement, on retrouve trois sujets différents, ou plutôt trois interprétations différentes que j'aimerais courtement vous donner. Vous allez voir que cela va nous aider dans la compréhension de ce texte. Premièrement, celle qui est la plus répandue, c'est celle qu'on retrouve dans la version que je viens de citer, c'est-à-dire la version de la Colombe ou la version Second. On la retrouve aussi dans la Taube, qui est la traduction œcuménique de la Bible, qui voit dans toutes les choses, sous-entendu tout ce qui est négatif. Ici, Paul ne parle pas de choses positives, mais toutes les choses, vous pouvez mettre là-dedans la persécution que les chrétiens connaissent dans le monde, par exemple, vous pouvez mettre là-dedans la maladie, vous pouvez mettre là-dedans tous ces éléments négatifs que nous autres chrétiens, nous connaissons, nous traversons, on se demande, mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que Dieu fait avec cela? Est-ce que Dieu nous envoie ça dans la figure pour nous apprendre quelque chose? On ne sait pas. Donc c'est cela, toutes ces choses-là. Donc le premier élément de traduction voit dans toutes ces choses le sujet principal. Ce qui fait penser à certains que tout ce qui arrive dans notre monde ou dans notre propre vie, surtout en tant que chrétien, est le fruit, quelque part, du destin. Je suis tombé malade, j'ai perdu mon travail, etc. Eh bien, les choses devaient se produire ainsi. Il y a une sorte de fatalisme, un peu. La seconde interprétation voit dans l'esprit dont il est question dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire les versets 26 et 27, voit l'esprit qui est sous-entendu ici. Dans les versets qui précèdent, ou dans tout ce chapitre 8, il est abondamment question de l'Esprit Saint qui est là. L'Esprit qui nous aide à prier par des soupirs inexprimables, on ne va pas en parler ce matin. Et certains pensent que le sujet principal ici, eh bien, c'est l'Esprit. Alors c'est attrayant, mais apparemment ce n'est pas le cas ici, puisque aucune traduction a retenu comme sujet principal l'Esprit de Dieu, même si celui-ci est à l'œuvre dans notre vie. Et que le fait que l'apôtre Paul dise ici « nous savons du reste » apparemment, même si ça fait suite à ce qu'il a dit avant, il introduit ici quelque chose de nouveau. Et puis la troisième manière de considérer les choses, qui est celle que je vous propose ce matin, voit dans ce passage un sujet principal. Et le sujet principal, c'est qui? C'est Dieu. Et nous trouvons cela, par exemple, dans la traduction du semeur. Vous avez, est-ce qu'il y en a qui ont la traduction du semeur, avec, dont c'est la version principale? Ok. Les autres, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Hein, c'est aussi la parole de Dieu. La traduction du semeur qui dit quoi? Romains 8, verset 28, il nous est dit ceci. Nous savons en outre que Dieu, est précisé, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et il y a aussi d'autres traductions qui ont retenu cela. Alors vous allez me dire, mais comment eux voient-ils Dieu ici comme sujet? Pourquoi ont-ils rajouté le mot de Dieu comme sujet? Tout simplement parce que dans plusieurs manuscrits anciens, on retrouve le nom de Dieu. Je ne vais pas vous faire tout un cours là sur les différents manuscrits qui existent, mais vous savez que le texte grec que nous avons et le texte hébreu et certaines parties en araméen, il y a beaucoup de manuscrits qui existent. Et parfois dans ces manuscrits, il y a ce qu'on appelle des variantes, des petites choses légèrement différentes. Et plusieurs anciens manuscrits ont retenu ou précisent que le sujet qui est sous-entendu ici, c'est la personne de Dieu. Vous me direz, mais comment se fait-il alors que la Bible du Second n'a pas retenu cela? Comment se fait-il que certaines traductions, qu'on appelle des traductions littérales, comme la Seconde, comme la Bible de la Taube, n'ont pas retenu ou n'ont pas précisé que le sujet principal ici était Dieu? Eh bien, tout simplement parce que pendant plusieurs siècles, la traduction principale qui a existé en Occident et dans le monde entier, c'était ce qu'on appelle la Vulgate, la traduction latine, qui a été réalisée au IVe siècle par Jérôme, qui est une traduction de l'hébreu et du grec en latin. Et donc, cette traduction a servi aussi aux traducteurs modernes. Et pendant tout le Moyen-Âge, pendant pratiquement 1000 ans, c'était la traduction officielle de l'Église, du reste une très bonne traduction. Et souvent, ceux qui ont traduit se sont bien sûr basés sur l'hébreu et le grec, mais aussi ont tenu compte de cette Vulgate. Et dans la Vulgate, pour des raisons tout simplement de grammaire, il n'était pas possible de mentionner que c'était Dieu alors que Jérôme lui-même l'avait vu. Et c'est tout simplement pour cela que ici on peut dire que le sujet principal, même si toutes les traductions ne le mentionnent pas, c'est Dieu. Et donc le plus juste ici est de considérer non pas l'esprit comme étant le sujet principal, ni même toutes ces choses que nous vivons comme le sujet principal, mais le sujet principal ici c'est... Merci. Et donc les choses commencent tout doucement à s'éclairer. Alors pas totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que Dieu est derrière tout ce qui nous arrive? Faut-il considérer la maladie, la souffrance, la violence, les échecs, les difficultés, c'est-à-dire toutes ces choses, comme un bien dont Dieu serait l'auteur? Pouvons-nous remercier le Seigneur pour toutes ces choses? Certains le pensent, ou alors ils le pensent, ils ne vont peut-être pas le dire, mais dans leur manière d'encourager les autres, dans leur manière de discuter avec d'autres personnes, dans leur prière aussi, finalement dans ce qu'ils croient profondément dans leur cœur, eh bien, on a l'impression que c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses et c'est Dieu qui nous envoie toutes ces tuiles sur la figure. Moi, je pense que Dieu n'est pas derrière toutes ces choses forcément dont Paul nous parle. C'est possible, mais il y a bien d'autres manières de comprendre les choses. Pourquoi? Notez-le, d'une part, parce que notre monde est marqué. Notre monde est marqué au fer rouge par quoi? Par le péché. D'ailleurs, même ce passage le souligne, puisque les versets précédents mettent en exergue quoi? Les versets précédents mettent en évidence que toute la création souffre. Il nous est dit que la création souffre. Pourquoi? À cause de la vanité, reprenant un thème cher à l'Ecclésiaste, mais à cause du péché. Non seulement la création, on le voit, la nature souffre, les animaux souffrent. Parfois, on a même l'impression que les arbres ou autres aussi souffrent, mais l'être humain souffre aussi. Et il souffre à cause de quoi? Il souffre à cause du péché. La maladie, la mort, les souffrances et tous les malheurs sont des conséquences, et ça c'est très clair dans la mentalité biblique, du péché. Par contre, la mentalité biblique ne fait pas forcément l'adéquation entre notre propre souffrance et le péché. Parfois, ça peut être le cas, mais pas du tout. Mais d'une manière générale, la pensée est là. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est une conséquence du péché. Par conséquent, nous n'allons pas remercier Dieu pour toutes ces choses. Nous n'allons pas remercier Dieu pour la maladie, pour la souffrance, pour le cancer, pour des fins de mois difficiles, parce qu'on a perdu son travail, parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent. On ne remercie pas Dieu pour les tuiles qui nous tombent dessus. Il faudrait être maso. Ou alors avoir une compréhension de Dieu qui, à mon avis, ne correspond pas à l'ensemble de la pensée biblique, ni même à ce qui nous est dit ici. Et puis, deuxièmement, tout ce qui nous arrive à nous autres chrétiens ne correspond pas forcément à la volonté de Dieu pour nous. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque lors d'un précédent message, j'avais justement parlé sur cette parole de Jésus, que ta volonté soit faite, et j'avais souligné qu'il y a bien des événements qui se passent dans notre vie qui ne sont absolument pas dans la volonté de Dieu. On sait que la volonté de Dieu est parfaite, on sait que la volonté de Dieu se réalise toujours, mais on sait aussi que sur terre, il y a des personnes ou il y a des choses qui cherchent à empêcher la volonté de Dieu. Il y a le péché que je viens de mentionner. Il y a les puissances, les autorités, le diable qui sont là, qui eux aussi cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues, des forces, des puissances qui cherchent à contrecarrer les plans de Dieu. Ceci dit, je le souligne, et ça c'est important, ce n'est pas parce que ce n'est pas Dieu qui envoie cela que Dieu ne serait plus maître de l'histoire. Dieu est maître de l'histoire avec un grand H, et Dieu est maître de notre histoire avec un petit H. Il y a cependant des éléments qui nous échappent et on ne comprend pas toujours pourquoi les choses sont ainsi. Vous me direz, mais puis si Dieu est le sujet, comme je l'ai dit il y a quelques instants, alors que fait-il? Comment faut-il comprendre les choses ici? Eh bien, Dieu utilise toutes ces choses qui surviennent dans nos vies pour en faire un instrument de bénédiction. Vous saisissez la différence? Dieu utilise toutes ces choses-là. Ce n'est pas lui qui les envoie. Dieu ne va pas nous envoyer des tuiles. Il sait très bien que la vie, c'est déjà assez difficile. Il sait très bien que nous avons à lutter avec notre propre péché et avec tout ce qui est là dans ce monde et toutes les conséquences du péché aussi qui nous touchent et qui nous affectent dans notre ministère ou dans notre vie parfois. Donc, ce n'est pas lui qui va encore nous envoyer cela. Par contre, dans toutes ces choses-là, Dieu peut tirer quelque chose de positif dans notre vie, pour nous apporter, comme le souligne l'apôtre Paul ici, un bien. Et c'est là toute la force, toute la sagesse, toute l'intelligence de Dieu, tout en conservant notre propre liberté, tout en tenant compte du péché qui gangrène notre monde, tout en tenant compte de ses puissances, de ses dominations, de ses autorités qui sont là, eh bien, Dieu utilise tout cela. Franchement, il faut être Dieu pour inventer un tel truc. Parce que ça, c'est encore plus balèze que si c'est lui qui envoie tout. Parce que dans tous ceux qui cherchent à contrecarrer le plan de Dieu, l'homme, les puissances, etc., Dieu arrive toujours à ses fins. Alors, comment il s'y prend? Ne me demandez pas. Là, c'est trop fort, c'est trop balèze ce qu'il fait. Dieu fait concourir toutes ces choses à notre bien. Et l'Écriture nous enseigne et nous rappelle tout au long des pages de la Bible cette grande vérité. Dieu utilise la maladie. Dieu utilise la souffrance. Dieu utilise les persécutions de nos frères et sœurs dans le monde. Et Paul lui-même a connu ces persécutions. Dans 2 Corinthiens 4:8, il en parle. Il dit qu'il a été désespéré, il dit qu'il a eu affaire à des famines, il dit qu'on l'a battu, il dit qu'on l'a laissé pour mort, il dit qu'il a été abandonné, qu'il a eu à souffrir de faux apôtres, de faux frères. Il dit qu'à plusieurs reprises, il s'est retrouvé tout seul, il y avait pratiquement tout le monde qui l'avait abandonné. Vous parlez d'une vie chrétienne réjouissante, ben, mes chers. Et il précise qu'à travers cela, Dieu a utilisé tous ces éléments négatif, ou en tout cas à première vue négatif dans sa vie, non réjouissant d'un point de vue humain, pour sa gloire et pour apporter quelque chose de bien. Toutes ces choses, nous dit l'apôtre Paul, travaillent à notre bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers elles, Dieu nous apprend quelque chose sur lui. Dieu nous apprend quelque chose sur les autres. Dieu nous apprend quelque chose sur la vie. Il faut bien comprendre que le bien dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas le bien tel que nous autres occidentaux nous le comprenons. Pour nous, le bien, c'est quoi? Pour nous, le bien, c'est parfois comme dans les prières des uns ou des autres, ou comme nous pouvons l'adresser à Dieu. Seigneur, fais que tout se passe bien. Et nous entendons par là quoi? Nous entendons par là, Seigneur, fais que, eh bien, il n'y ait pas de problème, fais que j'ai toujours ce qu'il faut, fais que tout se passe bien dans mon existence, qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas d'encombre. Et pour nous, le bien, c'est que tout aille comme sur des roulettes, hein, qu'il n'y ait jamais de difficultés. C'est ça le bien pour nous autres occidentaux. Alors que le bien d'un point de vue biblique, c'est quoi? C'est absolument pas ça. L'objectif de Dieu, c'est pas simplement notre confort personnel. Bien sûr, il nous l'accorde, mais ça c'est comme le dit Matthieu 6:33 en plus. Allez, tiens, je vous donne ça en plus, mon cher. Mais c'est en plus, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est notre bien. C'est-à-dire, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et comme ça nous a été rappelé à travers ce texte de Corinthiens, que nous puissions grandir spirituellement, que nous soyons rendus conformes à l'image de Christ, que le Seigneur puisse développer sa vie et manifester sa vie en nous. Ça, c'est l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de nous voir grandir et développer notre vie, nous préparer pour le ciel, parce qu'un jour, nous allons le rencontrer. Et on se prépare comment pour le ciel? Eh bien, en ayant son billet déjà, en ayant accepté l'œuvre de Christ à la croix, et donc ça, c'est gratuit, mais aussi en actualisant ensuite, tous les jours, notre salut. Puisque le salut s'actualise, nous sommes sauvés en espérance. Et en même temps, nous avons cette assurance, mais c'est en espérance, donc on actualise les choses. Et donc dans toutes ces choses-là, le bien c'est cela. Le bien c'est nous, c'est la transformation de notre être pour ressembler de plus en plus au Christ. Heureusement que j'ai encore plusieurs années, parce que quand je me regarde, il y a du boulot encore. Hein? N'est-ce pas Fabienne? Elle peut vous confirmer. Et les enfants, vous dites rien, vous, hein? De toute situation, même les plus pénibles, Dieu peut tirer du bien. L'exemple le plus marquant dans l'Écriture, c'est celui de Joseph. Vendu par ses frères, j'en ai pour 5 minutes encore, il a croupi en prison, il s'est retrouvé accusé injustement, il a souffert, il a été humilié. D'un point de vue humain, il a perdu de précieuses années. Et finalement, Dieu a utilisé cet homme pour devenir gouverneur de l'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez de l'autorité, de la puissance, du statut que Dieu lui a accordé. Dans un pays totalement païen, dans un pays où on adorait des statues, des idoles, où c'était des esprits qui étaient à l'œuvre, eh bien Dieu lui a donné la puissance et l'autorité. Pourquoi? Pour montrer sa puissance, pour sauver sa famille, et surtout pour sauver son peuple, parce qu'il avait quelque chose de beau et de bon en réserve pour son peuple. Et Joseph l'a compris lorsqu'il dit en Genèse 50, verset 20, « Vous aviez le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Eh bien, comme Joseph et bien d'autres personnes, nous aussi, nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas pourquoi nous vivons telle situation. Nous ne comprenons pas pourquoi tout d'un coup il y a une maladie, tout d'un coup nous sommes licenciés, tout d'un coup nous avons des conflits, tout d'un coup il y a tout qui part en live dans notre vie. On se dit mince, alors pourtant je suis fidèle, j'aime le Seigneur, je fais tout ce que je peux, je donne ma dîme, je suis fidèle à l'Église, je parle du Seigneur aux autres. Et voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Et on se dit mais que se passe-t-il? Je crois que nous devons renoncer aux questions et laisser tomber nos incompréhensions. Et ça c'est notre grand problème, c'est mon grand problème, c'est notre grand problème en tant qu'Occidentaux. C'est que nous sommes toujours là avec nos questions. Toujours, pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis notre plus tendre enfance, nous sommes habitués ainsi à réfléchir. C'est ainsi qu'on nous habitue dans le système scolaire. Toujours trouver des réponses à tout. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il nous donne des réponses, mais très souvent, il ne nous donne pas de réponses. Ce n'est pas la pédagogie divine. Dieu, souvent, ne nous donne absolument pas de réponse. C'est ce que Joseph a su, pourquoi il s'est retrouvé dans une prison quand il vivait la chose. Pourquoi ses frères l'ont jeté dans une citerne. Pourquoi tout d'un coup, il se retrouve là, injustement accusé à cause de la femme du Pharaon, alors que grâce à cet homme, Potiphar, merci, il y en a qui suivent. Potiphar a injustement accusé Joseph. Il ne savait pas pourquoi tout ça s'est passé. C'est seulement par la suite qu'il a réalisé, non pas que Dieu a envoyé tout cela, mais que Dieu a utilisé toutes ces choses pour tirer quelque chose de positif. Que se serait-il passé, mes chers, si Joseph s'était rebellé? Que se serait-il passé si Joseph avait dit, ben, moi j'en ai ras-le-bol, ça c'est un drôle de truc, moi j'en ai marre maintenant, on laisse tout tomber, mon Dieu je ne vais plus le prier, puisqu'il m'a lâché. Que se serait-il passé? Dieu aurait-il quand même accompli son plan à travers Joseph? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Pas du tout. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Dieu nous demande simplement, comme Joseph, comme Paul et comme le Christ, quoi? Non pas de poser des questions, mais de lui faire confiance. Et pourquoi lui faire confiance? D'une part, parce que Dieu est tout-puissant. Amen. Et Dieu délivre et renverse les situations et il fait travailler toutes choses à notre bien. Comment? On n'en sait rien. Ça, c'est la cuisine du Seigneur. Dieu, deuxièmement, est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Rien n'est en dehors de son contrôle. Même les événements les plus douloureux de votre vie, même ceux où vous vous dites « mais où est-ce qu'il était ?», même ceux où vous pensez à ces blessures qui sont là dans votre cœur, qui restent, qui saignent encore peut-être encore aujourd'hui, vous dites mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'était un truc, là, je ne comprends pas. Eh bien, Dieu sait toutes choses et rien de ce qui nous arrive est en dehors de son contrôle. Troisièmement, Dieu est bon. Et nous devons être intimement persuadés que Dieu est bon et qu'il est de notre côté. Et moi, je crois que si Joseph a pu s'en sortir, c'est parce qu'il était persuadé que même dans là où il se trouvait, alors qu'il était au fond du trou, qu'il était calomnié, que c'était profondément injuste ce qu'il avait vécu, il était persuadé que Dieu était bon, même dans ces moments-là. Ce n'est pas lui qui lui envoyait cette huile, mais il savait que malgré cela, Dieu reste bon. Et quatrièmement, Dieu m'aime. Et c'est parce que Dieu m'aime qu'il fait concourir toutes ces choses à mon bien. Et je termine avec une dernière pensée. Remarquez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou Dieu fait concourir toutes ces choses à notre bien. Pour qui? Pour ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, ce qui est notre cas, c'est-à-dire si nous lui avons confié notre vie, nous aimons le Seigneur, tout simplement. C'est imparfait, bien sûr, mais nous aimons le Seigneur. Et c'est pour nous, c'est pour les chrétiens. Pas pour les gens du monde, malheureusement, mais c'est pour nous que Dieu va faire travailler toutes choses pour notre bien et pour sa gloire. Amen. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce verset ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous apprends par là. Et tu réorientes notre pensée sur l'essentiel. Seigneur, nous voulons te remercier parce que en toute chose, tu interviens et tu agis. Et j'aimerais prier ce matin pour ceux qui sont dans toutes ces choses dont l'apôtre Paul parle. Nous n'allons pas les nommer. Elles sont très différentes pour les uns et les autres. Mais ceux qui sont dans toutes ces choses et qui sont là avec ces questions et autres, j'aimerais te prier, Seigneur, qu'ils puissent voir dans leur vie comment toi tu vas utiliser ces événements, peut-être même des événements douloureux, pour travailler, Seigneur, travailler ensemble à leur bien et à ta gloire. Seigneur, merci d'agir, merci de te manifester, merci parce que tu nous rappelles que tu es bon, que tu es de notre côté et que tu connais toute situation et que rien n'est en dehors de ton contrôle et que ce n'est pas toi qui nous envoie des tuiles, ce n'est pas toi qui cherches à nous plomber, ce n'est pas toi, Seigneur, qui cherches à nous enfoncer. Toi, tu es là, Seigneur, et tu utilises tout événement pour ta gloire. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier parce que dans toutes ces choses, tu interviens et tu te manifestes. Donne-nous de davantage de t'aimer et donne-nous, Seigneur, non pas de rester là avec nos questions, parce que les questions ne font rien avancer, les questions nous bloquent. Donne-nous, Seigneur, de te faire simplement confiance. Au nom de Jésus. Amen.